Chapitre 8. L'été avait disparu. L'automne, délicieux et court, avait fui comme une flèche. La première neige tomba au commencement d'octobre sur les prés encore verts, sur les arbres dont la gelée n'avait pas rougi toutes les feuilles. L'hiver s'annonçait précoce et rigoureux. Ce fut avec de grands cris de joie que les enfants du village saluèrent les premiers flocons, avant-garde de la blanche armée qui, en peu de jours, eut couvert tout le pays. Mais les gens d'expérience hochaient la tête d'un air soucieux, les gens à rhumatisme se tâtaient. L'almanach prédisait une énorme quantité de neige. « Ce n'est pas pour rien, disait-on, que les sorbiers portent tant de sorbes cette année. Ils seront le garde-manger des oiseaux jusqu'en avril prochain. » Déjà, les moineaux piaulaient autour des granges, ils se rassemblaient là en grande compagnie, voletant, picorant, s'envolant à grands froufrous d'ailes, aussitôt qu'un pas s'approchait. Les ménagères, que ce froid subit prenait par surprise, calfeutraient tous les huit, tiraient des armoires les flanelles et les bas de laine. Mademoiselle Augustine ajoutait aux nombreuses enveloppes de sa tête un capuchon doublé d'ouate, et se plaignait néanmoins déjà d'une névralgie qui menaçait d'absorber pendant 5 ou 6 mois toutes ses facultés. Le docteur examinait ses grosses bottes d'hiver, Mademoiselle Caton courait toute la journée après Ferdine pour fermer les portes que celle-ci laissait continuellement ouvertes et qui remplissaient la maison d'un chassé-croisé de courants d'air. Mademoiselle Cornélie avait l'air triste et préoccupée, peut-être parce que ses deux neveux avaient besoin de manteaux neufs en bon drap que son budget ne lui permettait pas de leur acheter. Quant au club Feuilles de Trèfle, il avait accueilli l'hiver avec enthousiasme. Il s'était rendu en masse sous l'appentis où il remisait pendant l'été son traîneau. Car le club possédait un petit traîneau, une glissette ou une luge, suivant le mot du pays, véhicule assez long, très bas, sur ses patins ferrés en biseau par le forgeron du village, et qui glissait sur les pentes avec la rapidité d'une flèche. Il était peint en rouge et noir et orné de boucles de cuivre qui tintaient en se heurtant. Il appartenait proprement à Ferdine, qu'il avait reçue de son père, à la condition qu'elle n'y monterait jamais seule, car il faut de l'habileté et une certaine force pour diriger une luge en pleine course. Quand la neige vole, que le vent vous frappe au visage et que le violent courant d'air vous fait haleter, il arrive qu'on perd la tête. On appuie du talon une seconde de plus qu'il ne faudrait et l'on achève sa carrière dans un fossé, sans dessus-dessous, avec la luge sur le dos, le manchon roulant à droite, la toque à gauche, trop heureuse encore si les avaries se bornent à quelques contusions. Siméon était un excellent guideur, comme disaient les enfants du village. Il avait du sang-froid et les jarrets solides. Son traîneau décrivait avec aisance les courbes difficiles du chemin des Seignes, rasant le bord de la pente sans jamais le franchir. Ce chemin était le rendez-vous général des jeunes propriétaires de luges. Ils descendaient de la maisonnette située au sommet de la colline qui dominait les Seignes et, par des lacets nombreux, il arrivait au village, gardant sur tout son parcours une inclinaison suffisante pour les légères glissettes que la vitesse acquise lançait jusqu'au milieu de la grande place et jusque sous le porche de l'église. C'était un trajet d'un quart de lieue accompli en 4 minutes au milieu de l'enivrante sonnerie des boucles de cuivre, du sifflement de l'air et des cris de joie des spectateurs. Mais il fallait connaître par cœur chaque contour, le prévoir, allonger le talon droit au bon moment, le relever sans précipitation, puis faire à gauche la même manœuvre, se garder de trop ralentir l'impulsion et, tout le temps, serrer les lèvres pour ne pas avaler cet air glacial qui semble vous brûler la gorge et qui vous étouffe. Ferdine adorait l'excitation de cette course folle qui lui fouettait le sang, lui embroussaillait les cheveux et lui donnait l'impression d'être une étoile filante. Mais, hélas, le temps des glissades allait être passé pour elle. Mademoiselle Caton la trouvait trop grande fille pour ses jeux de garçon. Et c'était avec peine, en suppliant sa bonne, en la menaçant de redevenir anémique, que Ferdine avait obtenu une dernière saison de luge. Aussi se promettait-elle d'en jouir largement. À la grande satisfaction de tout le petit monde, quelques nuits de gelée avaient rendu la neige portante, c'est-à-dire solide et massive comme de la glace. Le pied, en s'y posant, dispersait les paillettes étincelantes du givre dont elle était couverte, mais n'y laissait pas de traces plus profondes. Le temps était sec, le ciel parfaitement pur, la splendeur de la neige éblouissait les yeux. C'était un jeudi après-midi. Une procession d'enfants et de traîneaux gravissait lentement le chemin des Seignes. Des cris d'appel traversaient l'air sonore, des éclats de rire retentissaient sur toute la file. Siméon et Ferdine, attelés à leur traîneau sur lequel se prélassait Ernest, devançaient la colonne d'une vingtaine de pas. En arrivant au sommet, ils se retournèrent et virent la longue caravane dont les ondulations se déroulaient au-dessous d'eux. Ferdine fit la grimace. « Nous sommes trop nombreux, il n'y aura pas de plaisir, » dit-elle. « Regarde, Siméon, ils ont plus de 20 glisses. La moitié ne savent pas guider, ils tomberont les uns sur les autres. » « Laissons-leur la route, » dit Siméon, « et allons plus loin. La neige porte, nous pouvons prendre à travers champs. » C'est ce qu'ils firent. Longeant la crête de la colline, ils dépassèrent la maison des Seignes, côtoyèrent quelque temps encore les bords du vallon, puis traversèrent un petit plateau dont l'extrémité s'affaissait subitement en une pente unie et rapide. « Voilà notre affaire, » dit Siméon. « Tu verras, Ernest, comme nous allons tracer. » Nous ne nous arrêterons que là-bas, tout au fond de la combe. Messieurs les voyageurs, en voiture !» Ferdine s'assit de côté, au milieu du traîneau. Ernest se plaça à califourchon derrière elle, une jambe de ci, une jambe de là, et de ses deux bras, entourant la taille de Ferdine, pour donner plus de cohésion à la charge. Siméon, carrément assis sur le devant, tenant la corde du traîneau, jeta un coup d'œil derrière lui, afin de s'assurer que tout était en ordre, puis il leva les deux talons à la fois en criant « Hop !» et le traîneau partit comme un éclair. La première secousse fut rude pour les passagers. Ferdine, qui avait la bouche ouverte, se mordit la langue et Ernest tomba sur elle, ce qui la fit tomber sur Siméon. Mais celui-ci se tenait ferme comme un roc. L'équilibre se rétablit et la luge continua à voler en ligne droite avec une telle vitesse que les sapins semblaient courir sur le ciel. Ferdine avait envie de pousser des cris de joie, mais elle n'osait desserrer les dents par crainte d'une nouvelle secousse. Enfin, leur élan se ralentit peu à peu et, doucement, le traîneau s'arrêta comme fatigué. Ferdine battit des mains. « Voilà une glissade !» s'écria-t-elle. « Cela vaut 100 fois mieux que le chemin des Seignes !» Et ils considérèrent avec orgueil la crête élevée d'où ils étaient si glorieusement descendus. Le fer aigu de leur traîneau avait coupé sur la neige une ligne fine et droite que l'on pouvait suivre de l'œil jusqu'au sommet. « Mais c'est ennuyeux de remonter !» soupira Ernest. Les deux aînés ne purent s'empêcher de rire. « Comme tu n'es pas très lourd, » dit Ferdine, « nous essaierons de te remorquer. Allons, assieds-toi vite, je suis pressée d'être là-haut. »« Quelle masse de neige le vent a chassée ici !» dit Siméon, qui regardait autour de lui tout en gravissant la pente. « Il y en a bien 5 pieds sur ce petit replat, à gauche, où tu vois le givre tourbillonner. Au-dessus du replat, il y avait 2 ou 3 sorbiers, mais ils ont entièrement disparu. » Ferdine s'arrêta pour reprendre haleine. Elle n'écoutait que fort distraitement Siméon, qui avait coutume de faire des remarques sur tous les objets de la création. Néanmoins, elle tourna machinalement la tête dans la direction qui lui indiquait. « Tiens, » fit-elle au bout d'un instant, « je vois quelque chose de rouge sur la neige. Qu'est-ce que cela peut bien être ?»« Je me le demandais, » dit Siméon en abritant ses yeux de la main. « Allons y voir. » Ernest gardera la glisse. » Et ils partirent tous deux en reconnaissance. Siméon courait le premier. Après une minute, il cria « C'est tout simplement une grappe de sorbe qu'on aura jetée là. »« À moins, dit Ferdine, qu'elle ne tienne au petit sorbier dont tu parlais tout à l'heure. C'est un signal de détresse qu'ils font, comme les gens ensevelis sous les avalanches. » Siméon se pencha vers la neige et Ferdine pressait le pas pour le rejoindre quand elle l'entendit pousser une exclamation. « N'approche pas » cria-t-il. En même temps, à son inexprimable terreur, elle le vit disparaître. La neige avait cédé sous son poids et il se débattait dans la menée d'où son bras émergeait de temps en temps. Sa voix, un peu étouffée, continuait à enjoindre à Ferdine de rester où elle était. Immobile, épouvanté, mais gardant néanmoins assez de présence d'esprit pour se demander par quels moyens elle contribuerait le plus efficacement au sauvetage de Siméon, Ferdine songea tout à coup à la corde du traîneau. Elle se précipita vers Ernest, qui poussait des cris d'effarement, dégagea la corde des boucles où elle était retenue et laissa la glissette s'en aller à son gré sur la pente. « Siméon, Siméon, voici une corde » cria-t-elle. « Je vais t'en jeter le bout !» Elle s'approcha avec précaution, enfonçant jusqu'à mi-jambe dans la neige amollie qui avoisinait le trou. « Je ne te vois plus » cria-t-elle d'un ton de détresse. Mais elle fut un peu rassurée quand la voix de Siméon, avec son intonation ordinaire, lui répondit « Le trou n'est pas profond. J'essaie de remonter à la façon des ramoneurs, mais la neige n'a pas de consistance. » Et puis, c'est plein de branches qui me gênent en s'empêtrant dans mes habits. « Tiens-tu le bout de la corde ?» dit Ferdine. « Je vais tirer dessus de toutes mes forces, ainsi qu'Ernest. Quand je dirai trois, tu prendras ton élan. Une, deux, trois !» La corde se tendit, des branches brisées craquèrent, un bras apparut, cramponné à l'engin de sauvetage, puis la tête de Siméon émergea à la surface. Encore un effort des coudes et des genoux, encore une minute d'angoisse pour Ferdine, dont les mains crispées sur la corde semblaient renfermer en ce moment toute la force de son être, puis un cri de soulagement, de joyeuses exclamations et une embrassade générale du club. Siméon, à genoux sur la neige, n'avait pas eu le temps de se relever, qu'Ernest se précipitait à son cou, la figure ruisselante de larmes. Siméon, Siméon, j'ai cru que tu allais mourir dans ce trou. Ferdine était toute pâle, elle tremblait. Allons donc, fit Siméon, est-ce qu'on meurt pour s'être enfoncé dans la neige? Même seul, je m'en serais tiré, j'y aurais mis plus de temps, voilà tout. Pas de tragédie, mes enfants. Tout en parlant, il se tâtait, examinait ses habits, qu'il craignait d'avoir déchirés. Mon couteau, fit-il tout à coup. « J'ai perdu mon couteau. Il sera sorti de ma poche pendant que je me démenais là-dedans. Si je pouvais l'apercevoir !» Et il se dirigeait de nouveau vers le trou, quand Ferdine l'arrêta en se cramponnant à lui. « Tu vas y tomber de nouveau. C'est bien la peine. Un mauvais couteau de 4 sous. »« Ah, par exemple !» s'écria-t-elle exaspérée. « Ce n'est pas moi qui t'aiderai à en sortir cette fois. Tu me tourmentes exprès, méchant garçon !» « Bien, bien, ne te fâche pas, » répondit-il tranquillement. « Allons plutôt chercher notre glisse. » Quand le traîneau fut retrouvé, ils reprirent tous trois la direction du village. Aucun d'entre eux ne désirait recommencer la partie si brusquement interrompue. Ernest avait tant crié et pleuré qu'il en était maintenant tout abattu. Ferdine était fiévreuse. Quant à Siméon, que son aventure avait mis en nage, il sentait un petit frisson désagréable lui courir sur la nuque et les épaules. Il marchait rapidement, mais de temps à autre, s'arrêtait pour frapper de son talon la surface dure de la neige. « Pas moyen de l'entamer, » murmurait-il. « Je voudrais bien savoir pourquoi elle était si molle là-bas. »« Bon, te voilà toujours à creuser un problème, » dit Ferdine. « Et quand tu saurais pourquoi elle est si molle ?» Ce serait une satisfaction, j'aime à comprendre. Eh bien, c'est peut-être le soleil. Mais il brille ici, comme là-bas. C'est la lune, alors. Oh, que tu es ennuyeux! Tu es poli, toi. Mais pourquoi aussi veux-tu tout comprendre? Est-ce qu'on peut tout comprendre? Dans la nature, certainement, mais je n'en parlerai plus puisque cela t'ennuie. Et tu y penseras tout le temps. « Va, j'aime encore mieux que tu en parles !» Comme ils arrivaient sur le plateau, d'où l'on apercevait la petite maison des Seignes, la route et le village, Siméon s'arrêta. « J'ai une nouvelle à te dire, Ferdine. Elle te fera de la peine, mais il faut pourtant que tu la prennes. Comme voilà notre partie finie, je n'ai plus à craindre de te gâter ton plaisir. » La couleur allait et venait sur ses joues, il semblait très ému, il avait presque l'air d'un coupable. « Ferdine, je vais quitter l'école dans 15 jours. »« Pour quelle raison ? » s'écria-t-elle. « Ta tante avait promis de t'y laisser jusqu'au printemps. Quand on a promis... »« Chut, chut ! Ma tante ne pouvait tout prévoir. Monsieur Charlet, l'horloger, a besoin d'un apprenti. Il offre de me prendre à des conditions favorables, mais il veut que j'entre chez lui tout de suite. Ma tante m'en a parlé hier soir. J'ai dit oui. Je ne suis donc rien. Je ne compte donc pas, dit Ferdinand en se tournant vers lui, les yeux étincelants. Tu aurais dû me consulter, il me semble. Tes affaires sont les miennes, entends-tu ? Ah, tu as dit oui. Eh bien, moi, je dis non. Puis, sentant avec amertume l'inutilité de cette protestation, elle se détourna et reprit sa marche. Tout en elle bouillonnait. Siméon était un ingrat. Tante Cornélie était un tyran. Elle le lui dirait, oui, elle le lui dirait. Apprenti horloger, chez ce vieux Charlet, qui portait une garde-vue en carton vert, c'était révoltant, c'était ridicule. Siméon n'avait aucune persévérance, aucune énergie. Voilà donc à quoi aboutissaient ces 8 mois d'espoirs et d'efforts. Silencieuse, les yeux baissés, elle marchait vite, essayant de distancer ses compagnons. « Ferdine, ne me parle pas !» Elle sentit la main de Siméon se poser sur son épaule. « Ferdine, je t'assure qu'il m'a été impossible de te consulter. » D'un geste, elle repoussa sa main. Le vieux Charlet est revenu pendant que ma tante me parlait. Il demandait une réponse. « Le vieux Charlet » répéta-t-elle avec ironie. « Comme tu en parles avec respect de ton patron !»« Je ne t'ai jamais vu ainsi, Ferdine, » fit Siméon d'un ton de reproche. « C'est que tu ne m'as jamais vu avoir autant de chagrin. Tu as une drôle de manière de le montrer. Chacun le montre comme il peut. » Siméon n'ajouta rien. Ce silence irrita Ferdine encore davantage. « Tu n'as aucune fermeté, » reprit-elle. « Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne mérites pas d'être un homme. » Ernest les regardait d'un air stupéfait. « Restons-en là, » fit Siméon. « Tu me diras plus tard ce qui te reste à dire. » Il était devenu un peu pâle et il laissa Ferdine prendre les devants. Le long ruban du chemin des Seignes se déroulait au-dessous d'eux, semé de quelques groupes d'enfants qui s'écartèrent en les apercevant là-haut. « Gare !» cria Siméon pour les avertir. Ils s'assirent tous trois sur le traîneau, sans mot dire, et ce fut leur dernière partie de luge. Ferdine avait envie de pleurer, mais le vent qui lui fouettait la figure refoulait ses larmes. Elle n'entendit pas les cris qui saluaient le rapide passage, elle était toute à son désappointement.